5, 4, 3, 2, unité.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste, qu'on va dire au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de
l'économie sociale, a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
Vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler, puis début 2013, on lance ça en force.
Tabarnak, c'est l'Auberge espagnole sur les ondes de Divergence FM. Gilles Gouget vous salue bien, je salue Gérard Viol et Bruno Bertrand qui réalisent cette émission au cours de laquelle on parlera dans une petite demi-heure de Transversal. Transversal, c'est quoi? Une installation transmédia de muséographie itinérante à voir absolument du 14 au 15 novembre au Corum. Et c'est Corinne Cartaillac et Didier Lanois qui seront en plateau dans une petite demi-heure. On fera un petit clin d'œil aussi à l'expo photo à voir ces jours-ci au mur rouge, des photos de Maud Grubel. Et puis, dans une quinzaine de minutes, on recevra la présidente de l'association L'Avocat et l'Enfant du Barreau de Montpellier. On parlera de ses activités et des buts de cette association avec sa présidente Alexandrine Vietez. Et puis, sans plus attendre, on va se retrouver dans quelques petites secondes avec Nicolas Catin et l'intervenant du Café Climat de ce soir, un Café Climat consacré à la maison bioclimatique. Et c'est Xavier Bellhomme, architecte, qui accompagne Nicolas Catin. Ce soir se tient le 25e Café Climat sur le thème de la conception bioclimatique des maisons. Et pour en parler avec nous, l'incontournable Nicolas Catin de l'Agence locale de l'énergie. Bonjour.
Bonjour.
Et puis Xavier Bellhomme, qui est architecte. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Alors, un Café Climat 25e du nom qui se tient sur le thème de la maison bioclimatique. On va dire que c'est un rêve de tout le monde de dire d'avoir « j'ai une maison bioclimatique », etc. Mais ça recouvre une réalité qui ne s'adapte pas forcément à tout le monde, puisqu'on peut aussi envisager peut-être de rénover un habitat existant pour le mettre en bioclimatique, ce qui peut-être est un petit peu plus compliqué. On va en causer. La construction, l'éco-construction, l'habitat, c'est quand même un des axes majeurs sur lequel l'Agence locale de l'énergie communique assez régulièrement, puisque c'est vrai que c'est chez soi qu'on peut économiser de l'énergie, même si c'est au travail aussi. Mais l'habitat, c'est quand même très important pour la conscientisation des masses sur les questions écologiques.
Oui, un petit peu, effectivement, nous, c'est un peu notre rôle de vulgariser un peu ces notions-là et faire que les gens s'y approprient, que ça rentre un peu dans la culture commune, je dirais, locale ou nationale même d'ailleurs, ou internationale, mais effectivement que les gens ne soient pas, qu'il y ait certaines notions qui soient vraiment vulgarisées et que voilà, cette approche-là rentre dans les mœurs, entre guillemets, facilement. On le voit l'été, notamment les comportements qu'on peut observer, on l'avait déjà évoqué sur cette antenne à Montpellier, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément grandi ici, donc qui n'ont pas habité ce climat, qui n'ont pas vécu ce climat-là, donc qui viennent d'ailleurs en France ou d'ailleurs de l'étranger et qui arrivent à Montpellier avec des habitudes qui ne sont pas forcément climat compatibles avec vraiment le climat local. Donc voilà, donc on est en plein là-dedans. Il y a aussi tout ce qui est, on va dire, dans la prise de conscience, il y a tout ce qu'on peut faire chez soi en tant que locataire également, propriétaire, du premier niveau de gestes, de petits achats. Et après, quand on veut travailler, améliorer les choses, on peut aller un peu plus loin. Et d'où l'idée, notamment du Café Climat de ce soir, de donner vraiment des bases pour que les gens sachent où aller quand ils ont des projets ou de construction ou de rénovation.
Alors là, ça sera surtout ce soir axé sur le construire. Donc comment construire en tenant compte du terrain, du soleil, du vent, de la végétation. C'est là que l'architecte intervient quand on se pose la question. Je vais construire, si je veux avoir une maison bioclimatique, à ces premières interrogations, c'est déjà l'architecte qui peut répondre.
Oui, tout à fait. En tout cas, qui peut renvoyer des questions aux candidats à la construction. Mais je reviens un peu en arrière, parce que ce n'est pas que du construire. C'est aussi beaucoup, et c'est ce que je vais montrer aussi dans le diaporama, des exemples sur des constructions neuves, mais aussi des réhabilitations, et aussi du collectif social qui peut être aussi bioclimatique.
Collectif, c'est-à-dire HLM, immeuble, etc.
Oui, enfin là, il s'agit d'un exemple de maison en bande, mais c'est un collectif d'habitat social.
Alors, pour réussir ces transformations ou ces constructions, y a pas mal de questions qui se posent et des questions qui, sont, on va dire, sont encouragées par un contexte, juridique, puisqu'à partir du 1er janvier prochain, tous les logements neufs devront être construits selon les critères de basse consommation, ce qui risque d'être difficile, peut-être.
Ce qui va amener quelques difficultés. On en a déjà un peu conscience aujourd'hui parce qu'on travaille sur des projets qui sont en avant de la RT 2012, hein, les projets BBC et BPOS, bâtiments énergie positive. Donc on va là au-delà de la future réglementation 2012 et on voit que les difficultés sont plus des difficultés de chantier, de réalisation où tous les détails vont compter. Et où, contrairement aux pratiques habituelles, les artisans, les entreprises vont devoir collaborer de manière plus forte que d'habitude. Voilà.
Et plus en amont peut-être ?
Et plus en amont aussi, puisque à partir du 1er janvier prochain, tout permis de construire sera accompagné d'une notice thermique. Donc on va un peu tâter le terrain, on va voir comment ça se passe. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais 2012, on se lance et chaque construction neuve fera l'objet d'une étude thermique par un thermicien. Et ça va donc être quelque chose de tout à fait nouveau dans la construction française.
Effectivement, pour compléter, c'est une approche qui est vraiment différente. Il y a notamment l'entrée en vigueur des tests d'étanchéité à l'air. On en a déjà parlé également ici. On fera un prochain Café Climat au début de l'année. On fera un test in vivo, in situ plutôt, au sein de l'Agence locale de l'énergie. Donc on pourra voir ce que c'est qu'une porte soufflante qui aspire l'air, qui détecte les fuites. Et ça devient effectivement obligatoire. Alors que maintenant, c'était, on va dire, que les maîtres d'ouvrage ou les gens qui étaient un peu motivés qui partaient là-dedans. Là maintenant, c'est tout le monde est soumis à ça. Et effectivement, il y a une exigence de moyens vis-à-vis de ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est aussi ce qu'on abordera ce soir, pourquoi l'angle du bioclimatisme avec cette nouvelle réglementation là, qui arrive effectivement au 1er janvier, c'est que finalement, avant, on pouvait construire un bâtiment. On s'en sortait, on va dire, sans trop prendre en compte l'environnement. On arrivait à faire un bâtiment, on isolait un peu plus, on faisait attention à la ventilation, ça passait. Maintenant, avec cette exigence-là, on est tellement bas en termes de consommation qu'il faut absolument prendre en compte l'environnement et intégrer en fait tout ça à la conception de l'habitat. Donc ça valorise aussi des métiers comme l'architecte, hein, qui reprend son rôle un petit peu primordial, parce que grâce à l'architecte, à tous les concepteurs, on va dire, de l'acte de construire, qui vraiment, on arrive à une performance globale. Et c'est vraiment un travail d'équipe. Et effectivement, ça revisite un petit peu les pratiques qui parfois... donc ça va un peu changer. Il y aura un petit peu de bazar sans doute au début.
Bien sûrement, il y a une période d'adaptation difficile.
Mais c'est plutôt positif, ça va dans le bon sens.
Alors quand on dit un bâtiment étanche, on parle beaucoup en ce moment de la pollution à l'intérieur des maisons, que ce soit les bois en mélaminé qui émettent des substances toxiques, etc. Donc comment on peut avoir un habitat à la fois étanche à l'air, mais qui soit en même temps ventilé?
Je pense que ça s'adresse un peu à moi la question, c'est plus technique. L'habitat, il est étanche à l'air, mais il est forcément ventilé parce que sinon on ne pourrait pas vivre très longtemps à l'intérieur. Le fait de le ventiler, alors on peut aussi utiliser des matériaux qui vont être moins polluants, hein. Ils existent déjà, ils sont accessibles pratiquement à tous et voilà. Après, les règles de la ventilation ou du renouvellement de l'air de la maison, bon, c'est des choses qui évoluent énormément. Et surtout, si on a un bâtiment étanche, on doit avoir une ventilation, un renouvellement d'air qui fonctionne parfaitement. Sinon, on risque, y a des problèmes de pollution, il y a des problèmes d'humidité de l'air qui vont jouer sur la manière dont on peut chauffer le bâtiment. Enfin, tout ça est un peu... la maison est à la fois quelque chose avec un fonctionnement très simple, c'est-à-dire il fait meilleur dehors que dedans, j'ouvre les fenêtres ou j'ai fait un peu la fête hier soir, j'ouvre les fenêtres pour renouveler l'air, mais aussi ça doit fonctionner de manière un peu plus poussée au niveau technique pour gérer ces renouvellements d'air, gérer l'étanchéité, gérer les températures, les dépenses d'énergie, etc. Si on veut avoir des bâtiments qui sont confortables et peu coûteux en énergie. Et on est face à ça, enfin quand même face à des échéances assez brèves, avec
des criquets.
les criquets qui sonnent.
Non, bah, peut-être pour compléter sur justement, on se dit effectivement une maison étanche, on va être une maison, on va s'étouffer, on va se mettre un sac plastique sur la tête, c'est effectivement pas l'idée. Dans n'importe quel habitat en fait, notamment les habitats plus récents, enfin à partir des années 80, il y a une obligation de ventilation, donc les VMC ont fait leur apparition. Et le souci qu'on constate, c'est que finalement la VMC joue son rôle d'extracteur d'air vicié et de faire rentrer de l'air frais, mais en même temps il y a plein de fuites d'air en fait dans l'habitat qui font qu'il y a une sorte de double VMC quelque part, il y a deux VMC en parallèle. Et donc l'idée c'est que là on est sur une surconsommation d'énergie parce qu'on balance entre guillemets plus d'air chaud à l'extérieur qu'il n'en faudrait pour l'aspect sanitaire. Et donc dans ces maisons étanches, effectivement ben, on a vraiment empêché au maximum toutes les entrées d'air parasites de rentrer et on s'en remet vraiment à la VMC qui joue son rôle, qui fait son job de renouvellement d'air. D'où l'importance, comme l'a souligné M. Bellhomme, de la qualité de pose, de fonctionnement, d'entretien et de durée dans le temps de pérennité de la VMC qui, elle, vraiment assure pour le coup la bonne qualité de l'air du logement.
Mmh. C'est-à-dire qu'elle filtre aussi l'air du logement
elle le filtre pas réellement. Hein, mais quand on parlait tout à l'heure des études sur la qualité de l'air ambiant, on va dire, bien souvent, l'air à l'intérieur des habitations est plus pollué qu'à l'extérieur. Donc, d'où l'intérêt de faire rentrer de l'air neuf et d'extraire et de renouveler l'air qui est dans l'habitation. Et pour revenir sur cette notion d'étanchéité, c'est vrai que les points délicats sur le chantier apparaissaient pas jusque-là parce qu'on travaillait sur l'isolation juste. On sait maintenant faire des menuiseries, des fenêtres et des portes qui sont étanches, qui fonctionnent bien à ce niveau-là. Mais tout ce qui va devenir compliqué, c'est les traversées de gaines électriques à travers un mur, c'est les gaines de chauffage à travers un mur, c'est des tas de petits détails comme ça, la jonction entre le plafond et le mur, où on peut avoir des entrées d'air importantes qu'il faut absolument régler. Sinon, on a trop d'air, c'est-à-dire on gère mal le renouvellement d'air, d'une part, et d'autre part, on fait rentrer trop d'air extérieur. Donc, on a beaucoup plus d'air, de quantité d'air à chauffer ou à maintenir en température que si on gère bien ces entrées d'air.
Alors ce 25e Café Climat à partir de 18h30 permettra justement d'aller plus loin et puis d'avoir plus d'infos. Il y a une question évidemment que se posent tous les particuliers, c'est le coût, hein. Je vais construire ou je vais rénover, oulala, ça va me coûter cher si c'est high-tech ou etc. Alors évidemment les coûts de rénovation, de travaux, ils sont un petit peu incompressibles, même si peut-être que les gens fantasment aussi beaucoup sur les budgets avant de se mettre à les calculer réellement, mais il y a aussi tout un panel de solutions bioclimatiques simples et efficace qu'il faut connaître avant de concrétiser son projet. Et là aussi, toutes ces petites choses à connaître avant vont être présentées ce soir.
Oui, tout à fait, c'est vraiment une démarche. Hein. Donc, la personne, le candidat, effectivement, qui va, je prends l'exemple d'une rénovation, genre, voilà, la rénovation, c'est quelqu'un qui aura forcément un peu d'argent pour rénover, réhabiliter, peut-être remanier un petit peu les pièces d'un logement, des choses comme ça. Et bien, s'il a quelques notions de bioclimatisme, peut-être qu'il va agencer ses pièces différemment. Voilà, ça ne lui coûtera pas plus cher. Simplement, il aura injecté un peu d'intelligence, entre guillemets, dans son projet. Après, on peut faire appel aussi à des professionnels, architectes ou d'autres, hein, qui ont des notions et qui peuvent vraiment venir accompagner. Là, effectivement, c'est une prestation, mais on peut éventuellement rattraper parfois. Là, je me fais un peu le défenseur de la profession. C'est peut-être mieux si c'est moi qui le dis. Voilà, les architectes ont à cœur souvent d'essayer d'optimiser les projets pour faire rentrer le coût de leur prestation dans le coût du projet, en allant peut-être à l'essentiel de ce que demande la personne en face. Mais voilà, mais par rapport à ça, enfin voilà, sans forcément faire appel à un prestataire entre guillemets payant externe, ces notions-là, on peut tout à fait les appliquer à une rénovation simple. Quand on construit, même quelqu'un qui passerait par un promoteur, qui aurait un projet un peu qu'on lui imposerait, s'il peut faire quelques modifications, il y a des gens, les promoteurs, qui mettent la même maison, on va dire, je caricature, mais à Lille ou à Montpellier, quoi. Alors qu'en fait, voilà, l'idée, c'est que c'est pas la même chose. Donc on peut tout à fait, avec ces notions-là, questionner, aborder, et quand on va rencontrer des professionnels, on aura un regard un petit peu plus affûté sur les propositions qui nous sont faites.
Oui, il ne faut pas oublier non plus que comme la RT 2005 a engendré la RT 2007...
Alors, juste une précision, RT, hein, c'est réglementation thermique pour nos auditeurs.
Merci.
Tous les 5 ans, grosso modo, il y a une obligation de construire plus performant et donc plus économe en chauffage. Quoi, pour faire simple.
Ce que je voulais dire, c'est que cette réglementation thermique qui va s'appliquer en janvier sur les constructions neuves il va y avoir sûrement dans les 2 ans qui suivent une réglementation thermique spécifique pour les réhabilitations. Donc ce qui s'applique aujourd'hui, on peut pas forcément de manière simple l'appliquer à n'importe quel bâtiment, mais il y a toujours des solutions possibles.
Ben Nicolas Catin, Xavier Bellhomme, merci. On rappelle que ce Café Climat se tient à 18h30 à l'Agence Locale de l'Énergie, qui se trouve place Paul Bec, numéro 2 à Montpellier. C'est la nouvelle adresse de l'ALE si vous n'êtes pas encore au courant, mais ça commence à faire déjà quelques temps. www.ale-montpellier.org pour tous les détails. Et puis on vous souhaite un excellent 25e Café Climat.
Merci.
Au revoir. Et après toutes ces informations, vous n'aurez plus qu'à vous acheter un terrain et mettre une maison dessus. Buy some land, put a house on it, c'est le Electric Wire Hustle qui nous interprète ce titre de 3 minutes 27. Et à présent, dans les studios de Divergence, c'est Alexandrine Viettez que nous recevons. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes la présidente de l'association L'Avocat et l'Enfant du Barreau de Montpellier, une association qui est née en 1993 dans un contexte, on va dire, du droit des enfants qui remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en quelque sorte.
En quelque sorte, effectivement, et plus particulièrement sous l'impulsion de la ratification de la Convention internationale des droits de l'enfant par l'ONU, qui a été ratifiée par l'ONU le 20 novembre 1989. Donc c'est à l'origine de les idées novatrices de cette CID que l'association a vu le jour à Montpellier sous l'influence des textes européens.
Voilà, et puis suite aussi à l'ordonnance du 2 février 1945 en ce qui concerne la protection de l'enfance, et puis plus tardivement en matière d'assistance éducative en 1958, donc c'est quand même des préoccupations qui ne datent pas d'hier. Pour autant, le rôle d'une association comme l'Avocat et l'Enfant, manifestement, est toujours pertinent, à en juger par la soixantaine d'adhérents que vous avez, qui sont tous des membres du barreau.
Oui, tout à fait. Et j'ai même envie de dire de plus en plus, puisque l'évolution de cette fameuse ordonnance de 1945, qui est le texte fondateur en matière de droits des mineurs, que ce soit tant au niveau pénal qu'au niveau civil, n'a cessé d'être modifiée par plusieurs évolutions législatives et d'actualité, compte tenu des événements actuels que les médias retranscrivent, tant au niveau de l'auteur, du mineur auteur que du mineur victime.
Oui, on a le sentiment qu'il y a une responsabilisation de plus en plus importante envers les mineurs qui commettent des fautes d'errance, en quelque sorte.
Exactement. En tout cas, en ce qui concerne la tranche d'âge 16-18 ans, il y a malheureusement, j'ai envie de dire, mais bon, ça c'est un avis personnel de la militante que je suis, une disparition des principes protecteurs qui, justement, étaient mis en œuvre par l'ordonnance de 1945 et les textes internationaux, qui créent un droit pénal spécifique tant au niveau de la procédure que des peines pour protéger les mineurs. Et nous connaissons une évolution législative des 10 dernières années, on peut dire, qui tend à faire disparaître ces particularités, encore une fois pour la tranche d'âge 16-18 ans, et pour rapprocher le droit pénal des mineurs à celui du droit pénal des majeurs.
Alors je disais une soixantaine d'avocats qui sont membres de l'association. Il ne faut pas non plus croire que c'est que dans le cadre d'instruction que se passe l'activité de l'association, puisque vous avez aussi un rôle assez fort finalement de pédagogie auprès du jeune public, de votre public.
Exactement, puisque l'objet social de l'association, c'est la promotion et la défense des droits des mineurs. Donc il y a bien entendu tout un volet des activités de l'association qui concerne la promotion des droits. Par exemple, nous tenons des consultations gratuites pour les mineurs et les jeunes majeurs dans différents endroits de Montpellier tous les mercredis. Donc, que ce soit à la Maison des Avocats, que ce soit au CRIJ ou à l'Espace Jeunesse, tous les mercredis, un mineur ou un jeune majeur peut trouver un avocat spécialisé en droit des mineurs qui va pouvoir lui proférer des consultations gratuites. Et parallèlement, nous intervenons auprès des jeunes, d'un jeune public, que ce soit dans les écoles, les collèges ou les lycées, souvent à la demande de professeurs d'histoire ou d'éducation civique qui ont projet pédagogique derrière, pour faire de l'information, de la promotion sur le droit des enfants.
Alors, ça, c'est parler de la loi à l'école. Est-ce que c'est facile de parler de la loi à l'école, justement ?
Alors, c'est pas facile, vous avez bien compris. Ça dépend, bien entendu, de l'âge du public. Il faut savoir s'adapter. Par exemple, nous avons créé, il y a maintenant 3 ans, au sein de l'association, ce qu'on appelle un quiz pour les enfants d'une dizaine d'années. Non, lorsque nous intervenons dans ces écoles, nous arrivons avec une espèce de jeu, avec des questions-réponses, pour faire participer les enfants, pour les intéresser. C'est sûr qu'on ne peut pas tenir le même discours dans des classes de lycée que dans des écoles auprès des enfants de 10 ans. Mais le but, c'est vraiment de leur permettre de savoir qu'ils ont des droits, qu'ils ont aussi des obligations, de leur expliquer un petit peu comment ça peut se passer et de leur donner un regard sur la législation dans nos pays voisins ou au niveau international pour comparer un petit peu la situation des enfants dans le monde entier.
Alors, comme autre thème, il y a aussi la violence à l'école ou les actes d'incivilité dont la presse s'est fait l'écho assez récemment avec des professeurs qui se font battre par leurs élèves, etc., même quand bien même des élèves de 6e, etc. Alors, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une augmentation, on va dire, du comportement un peu incivil ou violent des enfants à l'école, ou est-ce que finalement c'est toujours bien de mettre un fait divers en première, en une, ça fait vendre le journal ?
Moi, mon expérience personnelle dans l'association, bien sûr, depuis 10 ans que je suis à la permanence pénale mineure du barreau de Montpellier, je n'ai pas l'impression que les mineurs ont changé, si c'est votre question. Je n'ai pas l'impression que les mineurs sont plus jeunes, et plus violent. Après, bien entendu, il y a des cas qui restent exceptionnels, des situations exceptionnelles, mais si on regarde les chiffres officiels, des mineurs de moins de 13 ans qui vont commettre des actes extrêmement graves, qui seront qualifiés de criminels, les chiffres n'ont pas explosé en ce qui concerne ce type de fait. Bon. Par contre, on ne peut que constater que les mineurs sont de plus en plus poursuivis, puisqu'on est dans une politique de tolérance zéro, où le premier acte va être poursuivi. Donc le mineur va comparaître, que ce soit devant un juge des enfants, un délégué du procureur, pour qu'il y ait une réponse pénale immédiate. Voilà. Donc les chiffres qui sont présentés, à mon sens, sont analysés comme ça, c'est-à-dire tout acte est poursuivi. Ce qui avant pouvait se régler au sein de la cellule familiale ou au sein de l'établissement scolaire va être désormais poursuivi parce que dénoncé, que ce soit par les familles ou par les établissements scolaires, ce qui peut conduire à des situations particulièrement excessive pour le mineur, qui va être sanctionné par exemple pour un acte de violence dans un établissement scolaire dont vous faisiez état au sein de l'établissement scolaire, avec une mesure disciplinaire, un passage devant un conseil de discipline qui peut conduire à une exclusion définitive de l'établissement scolaire, et parallèlement une poursuite devant un juge des enfants avec une réponse pénale, donc ce que moi j'appelle une double sanction, puisque et sur un plan scolaire et sur un plan pénal.
Alors qu'au départ, souvent, bah, c'est plutôt un manque d'attention. Enfin, les enfants violents, souvent, c'est qu'ils veulent attirer l'attention sur eux. Donc là, le gouvernement en place veut remettre des postes d'enseignants, etc. Alors, on va faire des procédures judiciaires qui coûtent de l'argent à la société plutôt que de finalement renforcer le tissu éducatif.
Effectivement, on constate souvent, pas tout le temps, hein, je ne veux pas faire de généralité, mais souvent, qu'un enfant dangereux est un enfant en danger. C'est-à-dire que l'enfant, qui n'est pas ce qu'on dit, l'expression courante, un midi-adulte, c'est un adulte en construction, justement, qui a besoin d'un certain nombre d'éléments pour finir sa construction et être totalement équilibré, va connaître des difficultés familiales, scolaires, et à la place de rééduquer, ce qui était l'esprit de l'ordonnance de 1945, on va réprimer. Et effectivement, on pourrait choisir des mesures alternatives, des mesures d'éducation, des mesures éducatives, mettre des moyens dans ces mesures éducatives, peut-être à la place de mettre des moyens dans des centres éducatifs fermés qui sont des réponses répressives.
On rappelle quand même que ces consultations gratuites pour les jeunes de 12 à 25 ans, donc ça, c'est quand même un spectre assez large, ont lieu donc les 1er et 3e mercredi du mois au CRIJE, ça se trouve avenue Charles Flau à Montpellier, les 2e et 4e mercredi du mois à l'annexe de la Maison des Avocats rue Marcel Desserre à Montpellier, et puis à l'espace Montpellier Jeunesse rue Maguelone, c'est dans les 1er et 3e mercredi, dans tous les cas c'est de 14 à 17 heures, donc c'est un horaire assez facile à retrouver. Majoritairement, quels sont les questionnements des jeunes qui viennent vous voir en dehors de questions d'instruction ou de procédure ?
Alors, souvent, les jeunes majeurs ou 17-18 ans se posent beaucoup de questions en ce qui concerne leur avenir professionnel. Donc, c'est souvent des questions liées au droit du travail, que ce soit les contrats saisonniers, les contrats d'apprentissage. Bon, on a beaucoup ce genre de questionnement. On a aussi des questions en matière de familial, puisqu'on intervient aussi pour conseiller les enfants dans le cadre de séparation, hein, de divorce, puisque les enfants qui en font la demande peuvent être entendus par le juge désormais. Donc on peut retrouver ce genre de questions, affaires familiales et puis affaires pénales.
Au-delà de ça, est-ce que l'association a vocation aussi à partager son expertise et son expérience avec les autorités pour pousser dans le bon sens ?
Bien sûr, hein, puisque l'association a un grand volet d'activité en ce qui concerne les formations, donc formation interne que nous imposons à tous les membres de l'association, formation aux autres avocats du barreau de Montpellier ou des ressorts de la cour d'appel de Montpellier, formation auprès de professionnels de l'enfance. Donc nous travaillons avec la protection judiciaire de la jeunesse, les éducateurs de la PJJ que nous rencontrons régulièrement pour échanger sur nos pratiques et puis pour nous former les uns les autres. Nous rencontrons des travailleurs sociaux, des assistantes sociales, des professeurs qui nous demandent de les former sur bien sûr le droit des mineurs.
On vous remercie beaucoup, Alexandrine, d'être venue nous rendre cette petite visite. On rappelle qu'on peut retrouver toutes ces informations sur www.avocat-montpellier.com/aae.asp ou plus simplement sur divergence-fm.org sur l'article de cette émission. Et puis, on souhaite que votre mission, un jour, peut-être, ne soit plus nécessaire et indispensable. Mais je crois que ce n'est pas demain la veille.
Oui, merci beaucoup.
On se quitte avec Les enfants de Yann Tiersen. Un petit dernier rendez-vous avant de se quitter en musique. Areva, Veolia, Vinci, Bolloré, Foraco, Total, Delmas, Agrimex. Une soirée de réflexion et d'action sur les industries extractives au Niger aura lieu ce vendredi. Une rencontre avec la coordinatrice du groupe de réflexion et d'action sur les industries extractives du Niger, le GREN. C'est Survie Languedoc-Roussillon qui reçoit donc Madame Ramatou Soli, coordinatrice du GREN, ce vendredi 16 novembre 2012 dans le salon du Belvédère, encore au Corum, à Montpellier, pour une conférence de presse de 18 à 19h. Suivi d'une réunion publique au même endroit. On peut retrouver plus d'informations sur cette conférence bien sur le site survilero.blogspot.fr ou plus simplement sur le site de divergence-fm.org.